un phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways are a comedy of errors. You bellow with your fellows, get played like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. What are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me?
Bonjour, et nous sommes le mercredi 12 mars. Il est 19h, passé de 4 minutes, et c'est l'heure du Canu Info.
Nous commencerons aujourd'hui par la manifestation des intermittents du spectacle avec une interview.
Ensuite, Tarnac et Barbouzerie.
Manifestation en Turquie.
Des brèves.
On poursuivra par la chronique numérique.
Une tribune, défendre le droit des putes, c'est défendre le droit des femmes.
Et on enchaîne avec le faut que ça se sache.
Et ensuite, pour finir, la chronique de Laurent Delabouze. Alors pour commencer, je vais faire un point sur les infos du jour qu'on n'aura pas le temps de développer dans ce journal. Algérie, extension de l'opposition à la candidature de Bouteflika. Donc Alger, le théâtre de nouvelles manifestations, le mouvement de protestation contre un quatrième mandat du président âgé et diminué par un accident vasculaire cérébral s'élargit. De plus, Bouteflika a interdit aujourd'hui à une chaîne télé d'émettre Al Atlas TV, très critique envers le gouvernement. Le compte à rebours en Crimée est commencé, c'est J-5 du référendum et les Européens continuent à faire monter le ton vis-à-vis de la Russie. Procès du génocide rwandais, ce qu'un million de morts signifie, donc les parties civiles ont commencé depuis lundi leur plaidoirie dans le premier procès d'un présumé génocidaire rwandais jugé en France, dressant le portrait d'un assassin manipulateur. Le verdict est attendu en fin de semaine. Rachat SFR, la rentabilité financière comme moteur, donc les grandes manœuvres qui sont actuellement en cours dans le monde de la téléphonie, oublient autant les besoins des usagers clients que les salariés des opérateurs. Et enfin, Malaisie, l'avion disparu a changé de trajectoire après son décollage. Donc l'absence totale de traces du MH370, mais aussi de nouvelles révélations faites par l'armée malaisienne, poussent les enquêteurs à relocaliser la zone de recherche au terme du quatrième jour, qui n'a pas apporté de solution à l'énigme. L'avion aurait changé de trajectoire environ une heure après son décollage et aucune hypothèse n'a été écartée.
Et les intermittents du spectacle étaient dans les rues aujourd'hui, dans les rues de plusieurs villes de France, dont Lyon. Il y avait peut-être entre 500 et 1000 manifestants, c'est encore trop tôt pour avoir des chiffres donnés par qui que ce soit, du coup c'est plus des impressions aujourd'hui à Lyon. Et nous avons avec nous Lakhdar de la CGT privée d'emploi précaire. Bonjour Lakhdar.
Bonjour.
Alors est-ce que... toi tu sors de la manifestation là?
Oui, c'était plus un rassemblement qui s'est transformé après en manifestation en direction de la préfecture où devrait être reçue une délégation au moment où je vous parle. Donc voilà, c'était justement pour rappeler à M. François Hollande qu'en janvier 2012, il avait dit « Je réaffirme que la culture doit être une priorité majeure ». Sauf que les budgets qu'il nous annonce pour 2013-2014 font part d'une réduction de 7%. Malgré cela, le 19 janvier, il réaffirmait « La crise ne rend pas la culture moins nécessaire, elle la rend plus indispensable ». Dans le même discours à Nantes, ville de son Premier ministre, la culture c'est l'avenir, c'est le redressement, c'est l'instrument de l'émancipation et le moyen de faire une société pour tous. C'est elle qui nous élève, qui nous construit, qui nous rassemble, ce contre tout repli sur soi-même, crainte de l'autre, etc., que l'on voit par-ci et par-là monter. Déjà, ils étaient fortement entamés par le RGPP, pardon, la réforme générale mise en place par la droite, c'est-à-dire la réforme générale des politiques publiques. La politique d'austérité remet en cause une gouvernance partagée entre État et collectivités territoriales. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils se partageaient un petit peu les budgets de la culture et chacun, selon ses compétences, intervenait. Seulement, ça remet en cause le pacte républicain qui prévalait jusqu'à maintenant. Les organisations de la marche pour la culture, justement, et plus exactement la culture rentre en résistance, dénotent une grande braderie de la culture. À ce sujet, la CGT a interrogé le ministre de la Culture, Mme Aurélie Filippetti, dans quel vif allez-vous trancher ? Où allez-vous couper ? Qu'allez-vous supprimer, fermer, sacrifier ? Les DRAC sont déjà considérablement affaiblis. Le président s'est dit très attaché au régime d'assurance chômage des professionnels du spectacle, mais n'apporte aucune réponse concrète. Le 24 février, ils font des dispositifs qui garantissent l'emploi. Il faut des dispositifs qui garantissent l'emploi, la formation et rassembleraient tous les éléments qui concernent à la création et à la diversité culturelle en France. Le gouvernement est en passe de faire l'unanimité de tous les syndicats et professionnels contre ces économies. Le MEDEF, la CGPME et l'UPA ont décidé de repousser la dernière séance des négociations sur l'assurance chômage au 20 mars. Ils sont toujours bien décidés à durcir les conditions d'accès aux annexes 8 et 10, voire à les supprimer. On nous parle de déficit de l'UNEDIC, mais on ne nous dit pas combien de patrons ne payent pas ou traînent des pieds pour payer leurs cotisations UNEDIC. Les relances pour les chômeurs et la clémence pour les patronats. Patronat qui est le principal fossoyeur d'emplois. Rien qu'à elle seule, la rupture conventionnelle du contrat a gravement contribué au déficit de l'UNEDIC. Et c'est de la responsabilité des patrons. Si nous leur faisons payer au prix fort le chômage, la France retrouverait le plein emploi. Combien de cadeaux allons-nous faire à ces ingrats qui ne disent ni merci, ni ne donnent de contrepartie ? Nous restons et resterons mobilisés sur l'assurance chômage. Et demain, à 12h, place Charles Hernu, métro Charpennes, nous organisons un rassemblement pour justement manifester notre mécontentement par rapport au sort qui est fait aux chômeurs. Pour leur rappeler haut et fort que ce n'est pas en changeant de date, parce que sans le savoir, ils ont changé la date des négociations. Ce ne sera plus le 13, mais le 20. Parce que le MEDEF se prend pour le maître de cérémonie. C'est à lui seul qu'on a des comptes à rendre. C'est lui et lui seul qui mène la danse dans ce pays, qui est la France. Et ce n'est qu'un début. Le combat continue. Pour tous, nous exigeons un vrai revenu et pas de substitut. Pas en forme d'aumône. Si demain, les chômeurs étaient payés à 80% du SMIC, une meilleure indemnisation, qu'aucune indemnité ne soit inférieur à 80%, comme je viens de le dire. La création d'un droit systématique à la formation professionnelle qualifiante pour les demandeurs d'emploi et la transférabilité du CIF, qui est le contrat individuel de formation. Des droits rechargeables, qui prennent aussi en compte les plus précaires. Une surcotisation des contrats courts et des temps partiels de faible durée à des taux qui en rendent le recours abusif plus onéreux. Une contribution de l'employeur sur les ruptures conventionnelles. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, le patronat se croit tout permis. Il nous l'a rappelé après avoir humilié nous tous, citoyens, tels que nous sommes, en humiliant nos instances les plus hautes de la République à l'étranger, en République américaine, les USA. Et nous, franchement, nous n'avons qu'un mot à dire. Il est temps que Gattaz dégage. Parce que franchement, on en a vu des patrons du MEDEF. Mais alors celui-là, il dépasse tout le pompon. Franchement, et les chômeurs et les précaires ne sont pas prêts de finir dans la misère. J'espère que tout le monde se soulèvera, parce que le nombre de millions de gens qui vivent dans la précarité, suite à des emplois précaires, à des contrats aidés, qui sont toujours soumis à la dictate du patronat, il est temps que cela cesse. Récemment, Le Monde a écrit un article. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, qui pensons à un changement de société, Le Monde avait déjà écrit un article en 68. Et bizarrement, il y a eu mai 68. Personne n'avait vu venir, soi-disant. Parce qu'on croit qu'à force d'écraser les gens n'ont plus la force de se relever. Et au jour d'aujourd'hui, Le Monde réédite un article, justement, où il semble se poser en tant que, je ne sais pas, précurseur, parce que peut-être ils ont plus ou moins des antennes dans la société actuelle, ils sont loin des réalités que vivent les gens. Mais il semblerait que nous nous engageons dans un autre mai 68. Le pire, c'est que le patronat n'hésite pas. Le patronat, lui, la guerre des classes, il l'a toujours menée. C'est les salariés qui ont baissé les bras. Ils se sont renforcés dans leur... ils croient que les crédits bancaires, les découverts bancaires, c'est des augmentations de salaire. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Et justement... au jour d'aujourd'hui, le patronat, s'il décale la date de la cinquième séance de négociation sur la convention unidique, c'est qu'il sait que là, il a passé le bouchon, un peu trop haut.
Alors, pardon, en fait, je vais déjà t'interrompre parce qu'on va avoir d'autres choses à parler après. Du coup, je te remercie d'être venu et est-ce que tu peux quand même redonner le rendez-vous de demain ?
Alors, ce sera demain à 12h, place Charles Hernu à Villeurbanne, métro Charpennes.
Et le programme pour faire quoi ?
En fait, ce sera pour contester les propositions du patronat par rapport à la convention d'assurance chômage. Et effectivement, réimpliquer que le patronat doit payer 80% du SMIC à tout chômeur jusqu'au retour en plein emploi, aux primo-demandeurs d'emploi, des jeunes qui sortent de scolarité ou quoi que ce soit, et qui se retrouvent sans aucune indemnité.
Ok, eh ben, merci Lagdar, et bon courage pour demain et pour la suite de la lutte. Wiser than man that knows a fool. Tempt not a desperate man with a jewel. I take from Peter to go and pay pool. Some rise by sinning by virtue fool. What have you made if you gain the whole world? But sell your own soul for the price of a pole. The world is my oyster and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. I've told no joke, I hope you're not laughing.
Et on commence avec une nouvelle blague dans l'affaire Tarnac, qui est révélée cette fois par Le Monde et qui nous vient d'un juge anglais. Donc, Mark Kennedy, agent infiltré du National Public Order, National Public Order Intelligence Unity, le NPOIU, un service chargé de la lutte contre l'extrémisme intérieur. Donc, il faut comprendre l'extrême gauche anglaise, les gens pour le droit des animaux et... bon, c'est à peu près tout en Angleterre, je pense. On les connaît parce que Pardon, on le connaît parce que la camarade anglaise avec qui il avait noué des rapports intimes a découvert un passeport à son vrai nom dans ses affaires avant de révéler à la presse cette affaire en 2011. Cette histoire a été l'occasion de lancement de nombreuses procédures d'enquête, notamment en Angleterre et en Allemagne, en raison notamment de cette collaboration avec des services étrangers aux services anglais qui, là-bas, n'est pas vraiment licite. En France, les services de l'État ont préféré faire le dos rond et pas trop réagir, histoire qu'il ne se passe rien. Cet après-midi, Le Monde revient à la charge, parce qu'il y a peu, à l'occasion de la déclassification par un juge anglais, des rapports d'enquête et des livres de notes de Mark Douglas, des informations sur un certain nombre l'ensemble des infiltrations de Mark Kennedy sont sorties. Notamment celle sur l'affaire de Tarnac. Alors on avait déjà eu des doutes en 2011, à l'époque où le dossier était sorti et où on apprenait que ce monsieur Kennedy avait servi à plein de services secrets étrangers. Mais maintenant on en est sûr, donc on se souvient qu'à l'époque les ex-RG qui s'apprêtaient à fusionner avec la DCRI avaient besoin de peser dans cette fusion pour rappeler qu'ils étaient quand même importants et que, attention, il y avait des ennemis intérieurs, tout ça, tout ça. Et donc, ils sont partis à partir de fantasmes de MAM et leurs propres fantasmes, demander à la SDAT des renseignements sur le groupe de Tarnac, enfin, qu'on appelle maintenant le groupe de Tarnac. Pour la SDAT, qui, selon Le Monde, avait d'autres chats à fouetter à l'époque, il n'y avait rien à dire. C'est comme ça que les RG se sont tournés vers l'équivalent britannique de la SDAT. Et là, c'est le jackpot, le groupe de Julien et sa ferme. Donc c'est l'appellation qu'on trouve dans le rapport de... Donc c'est Julien et sa ferme. Ça a l'air vachement sympa, ça, une colonie de vacances et tout. Est ajouté aux objectifs de l'agent infiltré. À la fin de l'été 2008, on lui demande même une infiltration spécifique. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors, pour l'instant, les responsables de la DCRI, eh ben, ils jouent les amnésiques. Parce que dans cette affaire, bah, soit c'est des crapules qui ont enfreint la loi pour monter un groupe à charge contre une bande d'utopistes qui, je le rappelle, s'appelle Julien et sa ferme. Soit, deuxième truc, c'est des parfaits incompétents, incapables de savoir qu'un groupe qui sont censés surveiller sur demande du ministre de l'Intérieur, non pas du ministre de la Défense, pardon, est aussi surveillé par des services secrets d'un pays allié, peut-on dire. Voilà, voilà. Which do your classrooms speak eloquent? Though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street, or rose by any other names, not just a sweet.
Un petit air d'été en ce moment, oui, c'est pas que la météo, c'est aussi la Turquie. C'est que les grosses manifestations qu'il y avait eu l'été dernier semblent vouloir reprendre. Alors, des nouveaux affrontements ont opposé aujourd'hui la police aux manifestants en Turquie. Nouveau parce qu'il y en a déjà eu hier après-midi et hier soir. Tout ça a été déclenché par les funérailles d'un garçon de 15 ans qui est mort hier des suites de blessures causées par la police à l'été dernier. Au lendemain d'une première soirée de violence dans plusieurs villes du pays, donc ça c'était hier soir, la police est intervenue aujourd'hui à Ankara, à Izmir, à Istanbul, avec gaz lacrymogène, canons à eau, etc., etc., pour disperser des milliers de personnes qui scandaient des slogans hostiles au Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Pardon. Alors, Berkin Elvan, c'est ce jeune homme qui avait été grièvement blessé à la tête dans son quartier le 16 juin par un tir de grenade lacrymogène, alors qu'il sortait, qu'il n'était même pas à la manif. En fait, il allait acheter du pain, mais c'était pendant une intervention des flics. Depuis, il est devenu l'un des symboles de la répression des manifestations du début de l'été dernier, répression qui a fait 8 morts, donc en comptant Berkin Elvan, et plus de 8000 blessés. Berkin Elvan est donc mort hier, après 269 jours de coma, sitôt son décès annoncé, des centaines puis des milliers de personnes ont multiplié les sit-ins et les manifestations dans le pays. Donc, déjà émaillé d'incidents pendant la journée de mardi, ces rassemblements ont donné lieu à de violentes échauffourées dans la soirée. Donc ça, c'était hier soir, à Ankara, à Istanbul, à Adana, à Izmir ou encore à Mersin, où les forces de l'ordre ont violemment réprimé les manifestants qui, eux, avaient des pierres, des cocktails Molotov et des feux d'artifice. Selon la presse turque, plus de 250 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées. Et bon, alors, il faut quand même redonner un petit coup de contexte, là, c'est que ces nouvelles manifestations arrive alors que depuis la mi-décembre à peu près, l'AKP, donc le parti du Premier ministre Erdogan, est englué dans un scandale de corruption sans précédent qui a fragilisé sa position et alors aussi qu'il va y avoir des élections municipales chez eux aussi, ça va être le 30 mars, et dans la perspective de la présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 10 août. Autant dire que Erdogan est quand même mal en point, mal en point. Et ben voilà, c'est tout.
Alors, une bijouterie a été braquée aujourd'hui à Lyon, cours Lafayette, dans le 6e. Ça s'est passé à 14h, enfin aux alentours de 14h15. Deux hommes à visage découvert sont entrés dans la boutique, puis ont ligoté le gérant avec du ruban adhésif à l'ancienne. Ils se sont emparés des bijoux et d'une sacoche pleine de liquide et ont pris la fuite par une petite ruelle à côté de la bijouterie. Le gérant a été frappé à plusieurs reprises au visage, il a été emmené à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger, rassurez-vous. Mais il a quand même confié, au moment où j'ai déverrouillé la porte, j'ai su que j'avais fait une erreur. Ça, on aurait pu te le dire aussi. Les deux braqueurs n'ont pas été arrêtés, mais on imagine que s'ils ont fait ça à visage découvert, c'est qu'ils doivent avoir un bon plan de repli, en tout cas, on l'espère pour eux. Ensuite, on va aller dans l'Essonne, en Île-de-France, où un commissariat a été attaqué. Ça se passe dans le quartier des Ulysses. Un feu d'artifice a été tiré lundi soir en direction du commissariat. Personne n'a été arrêté et dans le mois, le commissariat a déjà été la cible d'un autre tir de feu d'artifice et de jet de pierre par une dizaine de personnes. Au total, une voiture de police a été endommagée et une vitre du Comico a pété.
Ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, des ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Alors, ce soir dans les chroniques numériques, on peut commencer avec une mauvaise nouvelle dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Les tickets restaurants vont être dématérialisés, donc on va avoir des cartes à puce pour payer au restaurant. Alors, on nous fait des milliards de listes d'avantages et d'inconvénients, mais qui prouvent surtout que quand même ça va être génial pour les salariés. Mais personne ne nous parle du respect de la vie privée, par exemple, qui, comme d'habitude avec les cartes à puce, est complètement réduit à néant. Des statistiques qui vont pouvoir être beaucoup plus rapides et efficaces sur là où vous mangez, ce que vous mangez, qui vont pouvoir, bien sûr, comme d'habitude, être reliées à d'autres informations pour vous envoyer de la publicité. Et surtout, ce qui est quand même un peu dommage, c'est que personne ne nous parle du fait que les tickets restaurants, ça restait quand même un petit plus qu'on pouvait donner aux gens qui font la manche, qui était simple et efficace, et quand même assez chouette. Alors aujourd'hui, parce que c'est une bande de boulets, la Caisse d'Épargne a lancé et a fait le buzz sur la première application française pour les Google Glass. Alors les Google Glass, c'est ces lunettes interactives qui vont vous permettre de faire un peu tout ce que fait un smartphone, mais avec des lunettes plus ou moins. Et beaucoup plus, et d'avoir l'air d'un con, oui, ça, c'est une autre application, c'est clair. Mais voilà, la Caisse d'Épargne a lancé une des premières applications françaises qui permettrait de numériser les fichiers des clients, les fichiers, donc vos fichiers bancaires, qui sont très souvent, on peut estimer, un petit peu confidentiel, pour qu'ils soient enregistrés automatiquement dans votre coffre-fort numérique. Donc coffre-fort numérique que certaines personnes utilisent déjà, qui est normalement sécurisé, mais on se demande bien, parce qu'une n'en parle à aucun moment, comment ils pensent qu'une application qui est quand même faite pour Google, donc un système Android qui est quand même assez répandu, donc qui intéresse beaucoup les pirates, comment ils pensent faire passer tous ces fichiers par du coup des connexions internet qui vont permettre d'aller des Google Glass qui auront pris la photo jusqu'au coffre-fort numérique. On imagine très mal comment ils vont réussir à sécuriser tout ça. Alors, Alors, vous avez sûrement entendu parler aussi de Boeing, de ce Boeing qui s'est écrasé. On entend maintenant parler pas mal des téléphones qui sonnent dans le vide et de tous ces pauvres gens, des familles, des victimes qui ne cessent d'appeler et de demander aux autorités de géolocaliser ces téléphones parce que les téléphones continuent à sonner. Alors, les autorités refusent de les géolocaliser, ce qu'on trouve un peu bizarre à l'ère où la NSA géolocalise et écoute tous les téléphones du monde. Mais ces téléphones-là, on n'a pas le droit de les géolocaliser. Et surtout, les rationalistes nous sortent encore des théories qui diraient que les téléphones en Asie, de toute façon, sonnent très souvent, même s'ils sont éteints, parce que les messageries sont payantes. Donc, la plupart des gens ne payent pas pour avoir une messagerie et le téléphone continue à sonner, même s'il est éteint, même s'il n'a plus de batterie, ou toutes ces choses-là. Mais par contre, personne n'écoute la possibilité qu'il soit sur une île déserte, sachant que l'avion a quand même du coup changé de trajectoire une heure après son départ, que les téléphones sonnent et qu'on ne retrouve aucune trace. On voudrait quand même rappeler que c'est le scénario exact d'une série qui a 10 ans, qui fête ses 10 ans cette année, et on attend d'un moment à l'autre une sorte de communiqué de la maison de production de Lost qui nous dirait que c'est juste le buzz pour lancer une deuxième série. Et pour finir, parce qu'on peut toujours aller un peu plus loin, on a découvert le site Eterni.me qui nous promet l'éternité numérique. Bon, on l'avait déjà, on ne pouvait pas effacer un compte Facebook, tout ça, on en avait déjà parlé. Mais alors là, c'est une éternité encore pire. Je vous lis le texte qui est sur le site, parce que pour l'instant, le concept n'est pas vraiment lancé. Ils ont juste lancé un site sur lequel on peut s'inscrire et sur lequel ils nous expliquent « Tôt ou tard, nous mourrons tous, laissant derrière nous quelques souvenirs pour nos familles, nos amis et l'humanité. » Et si on pouvait se souvenir de vous pour toujours? Si vos enfants et petits-enfants pouvaient en savoir plus sur votre vie? S'ils pouvaient être plus comme vous, penser plus comme vous? Si tous les événements importants, les idées de votre vie étaient accessibles aux futures générations qui ne vous ont jamais rencontrés? Et si, mieux encore, ils pouvaient interagir avec votre mémoire comme s'ils vous parlaient en personne? Devenez simplement immortel. Eterni.me collecte presque tout ce que vous avez créé durant votre vie, traite cette énorme quantité d'informations grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle complexes, et ainsi il génère un virtuel vous, un avatar qui émule votre personnalité et peut interagir et offrir des informations et conseils à votre famille ou vos amis après votre mort. Voilà, en gros, dans quelques années, l'idée c'est de pouvoir skyper avec votre grand-père qui est mort et de pouvoir lui demander des conseils. Non mais oui, c'est vrai. Et pouvoir lui demander des conseils sur votre vie actuelle. Et il pourra vous répondre en fonction d'idées qu'il aurait eues à l'époque où il était vivant et qui auraient été collectées par Eterni.me. Voilà, on peut toujours aller très loin avec Internet.
Je voulais juste faire un petit appel aux gens qui parlent devant les micros. Aujourd'hui, on a l'impression que nous avons tous tendance à faire plus que d'habitude des mouvements de tête qui donnent à peu près un rapport comme ça au son et au volume. Et du coup, si tout le monde pouvait se surveiller un petit peu, ce serait cool.
Bon, alors j'ai la pression après ce rappel à l'ordre. Moi, je voulais vous lire la tribune du collectif Droits et Prostitution, la dernière tribune en fait qu'ils ont sortie, donc qui est toujours par rapport au projet de loi sur la prostitution qui va entre autres pénaliser les clients. C'est une tribune qui va sortir sur le site internet de Politis, mais elle est en exclusivité là sur Radio Canu.
Waouh.
Je suis désolée, je suis obligée de tourner la tête là pour te regarder en disant ça, mais
c'est très bien. Donc tu le fais en tournant, en regardant dans l'axe du micro, c'est très très bien.
Ça va, c'est parfait jusque là. Comme n'ont de cesse de le rappeler les partisans de la prostitution de la Comme n'ont de cesse de le rappeler les partisans de la proposition de loi visant à lutter contre la prostitution, la majorité des travailleuses du sexe sont des femmes. Dans cette logique même, il n'est pas possible de défendre les droits des femmes sans défendre les droits des putes. Droit à disposer de son corps, droit au travail et à l'autonomie, accès à la santé, aux droits communs et fondamentaux. Pourtant, les prostituées qui depuis des mois s'opposent à cette loi dans son ensemble et particulièrement à sa mesure phare, la pénalisation des clients, voient leurs paroles niées, ridiculisées, piétinées. Nier cette parole et la délégitimer n'a rien de féministe. Il s'agit de femmes qui opposent leur vécu, leur histoire, leur choix et leur combat à des positionnements idéologiques et théoriques, et qui craignent pour leurs conditions d'exercice et pour leur vie. Ne pas considérer le travail du sexe dans la complexité des trajectoires, des situations des femmes qui l'exercent, n'a rien de féministe. La confusion de la prostitution avec l'exploitation et la violence ne prend pas en compte les multiples facettes du travail du sexe et ne permet pas de soutenir les premières concernées. Les mesures envisagées pour aider, entre guillemets, les femmes prostituées sont conditionnées à l'arrêt forcé d'une activité qui est pourtant légale. Le cynisme de ce dispositif n'a d'égal que la pauvreté des mesures prévues. Un titre de séjour très précaire, des fonds ridicules et en aucun cas garantis. De plus, toute capacité des femmes prostituées à exercer le travail du sexe comme stratégie d'autonomie financière est niée. Rien n'est prévu pour établir les victimes d'exploitation dans leurs droits fondamentaux, pour permettre à celles qu'ils souhaitent d'exercer une autre activité, ou pour que celles qui ont été exploitées récupèrent l'argent qui leur a été volé. La seule solution véritablement envisagée n'est au fond rien d'autre qu'un retour dans un pays d'origine qu'elles ont, pour la majorité, quitté volontairement, quel qu'a été leur parcours par la suite. Le projet abolitionniste refuse donc l'octroi de droits aux premières concernées, au seul motif de leur activité prostitutionnelle, quelle qu'en soit la forme. C'est bien à toute une catégorie de femmes que sont déniés les droits fondamentaux. L'idéal égalitaire féministe est ici brisé. Des droits pour toutes, sauf pour les putes. Ainsi, le stigmate de la putain que cette loi entérine participe de l'assignation de chaque femme à un rôle. La maman d'un côté, la putain de l'autre. Les politiques prohibitionnistes et abolitionnistes accroissent les dissensions entre les femmes et rompent toute forme de solidarité entre elles. La loi ostracise aussi une forme de sexualité, la sexualité tarifée explicite, parce qu'elle ne correspond pas aux normes admises, hétérosexualité, sexualité gratuite, conjugale et basée sur une représentation de l'amour exclusif et éternel. Il s'agit d'une attitude paternaliste visant à contrôler la sexualité des femmes, mais aussi leur manière de se vêtir, d'occuper, de se comporter dans l'espace public, leur activité rémunératrice, en somme, à maîtriser le corps des femmes. C'est au nom de cette même norme que les femmes trans sont encore psychiatrisées, qu'on refuse aux lesbiennes l'accès à la PMA, que les femmes séropositives subissent une stigmatisation particulière liée à leur genre. La seule mesure valable, consensuelle et réclamée de longue date par les putes, c'est l'abrogation du délit de racolage passif. De racolage public, pardon. Véritable urgence sociale et sanitaire. Les tenants de la proposition de loi ne rougissent pas d'en faire un instrument de chantage, l'objet d'un troc odieux en la conditionnant à la mise en place d'une autre mesure répressive, la pénalisation des clients. D'un point de vue féministe, c'est dans son ensemble que la loi visant à lutter contre le système prostitutionnel est inacceptable. Elle nie la parole de toute une catégorie de femmes, entend contrôler la vie et le corps d'une autre, et cantonne l'ensemble des travailleuses du sexe à un sous-statut d'éternelle victime et ne leur confère aucun réel statut de sujet de droit. Cette loi aura ses victimes, en premier lieu parmi les femmes. Pour lutter pour les droits de toutes les femmes, il est temps de comprendre que les travailleuses du sexe ne font pas partie du problème, mais bien de la solution.
Chut, écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Alors, le 4 mars, au matin, 1200 migrants ont pris d'assaut la frontière de Ceuta en trois endroits différents. Alors, le premier groupe a tenté de passer en force au poste frontière de Tarajal, le second s'est positionné à 1 km plus loin, et le troisième encore 1 ou 2 km plus loin, mais lui a malheureusement fait demi-tour. Un peu plus tard, c'est 450 autres migrants qui ont tenté de passer de nouveau en force au premier poste frontière, là, à Tarajal. Donc du coup avec ces 1200 plus 450 migrants, ça en fait un des plus gros assauts de migrants sur cette frontière. On ne sait pas combien de personnes ont pu passer, ni s'il y a eu des blessés. On vous tiendra au courant si on a des nouvelles, mais a priori les autorités locales tiennent quand même un peu à camoufler tout ce genre d'infos. Deux jours plus tard à Melilla, 17 migrants ont tenté de forcer un poste frontière à la voiture Bélier, et malheureusement pour eux, ils se sont fait choper direct.
Il faut que ça se sache.
Un exilé est mort sur le parking de l'aire d'autoroute de l'Épître, donc c'est entre Boulogne et Calais. Il avait un peu plus de 20 ans. En fait, il y a eu une bagarre qui a éclaté sur le parking entre différents exilés dimanche soir, un peu avant minuit. Et ça, c'est sûrement lié à l'accès au camion. Donc, je répète, l'accès au camion, c'est pour se cacher dedans, pour passer en Angleterre. Et les autres aires d'autoroute aux approches de Calais ont été fermées par les autorités, ce qui contribue à éloigner les autres points de passage à Calais, Saint-Omer, Noranfonte, Angres.
Le 7 mars, ça gêne les vitres du siège local de la Ligue du Nord. Pour rappel, c'est en Italie et c'est le parti d'extrême droite italien. Ont été défoncés en solidarité avec tous les retenus dans les CIE. Le 10 mars, on continue, on est toujours en Italie, plusieurs incendies au CIE de Corso Brunelleschi à Turin. Vers 10h le matin, les retenues ont allumé des incendies simultanément dans les 5 chambres d'isolement et dans toutes les chambres de la section jaune. On ne connaît pas exactement les dégâts, mais la police a quand même dû évacuer toute la section isolement et garder les retenues de la section jaune dans la cour. Peu après, un rassemblement d'une soixantaine de personnes s'est tenu en face du centre en solidarité aux émeutiers, ce qui a peut-être motivé encore d'autres retenues de continuer leur travail de destruction en allumant plusieurs incendies dans la section blanche du centre de rétention. Bon, vous noterez que toutes les sections ont des noms de couleurs, on ne sait pas pourquoi, voilà, sûrement pour la peinture des murs. La police en sous-effectif n'a pas pu intervenir de manière musclée, heureusement pour les retenues, et est seulement parvenue à laisser les retenues dans la cour. Dans le CIE de Turin, il ne reste donc plus que la section verte, encore intacte. C'est la section zen un peu. La section jaune est complètement fermée. Dans la section blanche, il ne reste que la cantine. Et dans trois autres sections dont je vous cacherai les couleurs, il ne reste que deux chambres utilisables. La police en a profité à ce moment-là pour faire de nombreux interrogatoires des retenus et surtout ceux qui étaient en isolement, du coup ceux qui ont un peu lancé l'émeute. Et il s'agissait pour eux de savoir comment ils s'organisaient et quels étaient leurs contacts à l'extérieur, parce que les flics, quand même malins, ont vu que à peine quelques heures après les premiers départs de feu, bim, il y a une 60 personnes qui rappliquent. Du coup, ils se sont dit, ah, peut-être qu'il y a du contact à l'extérieur. Bon, en gros, les flics commencent à essayer de capter pourquoi tous les centres de rétention en Italie partent en fumée. C'est bien, ça fait à peu près 2 ans.
Oui, bah, on peut juste espérer qu'ils vont pas capter tout de suite.
Oui, c'est ça, bon, quand même, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils captent.
Attention, vous êtes prêts ?
Et maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique.
Bonsoir. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber. C'est un naze de l'UMP. Eh oui, ça continue et ça s'enchaîne, même à une vitesse incroyable, les affaires de l'UMP en ce moment. Il semblerait d'ailleurs que ce soit une stratégie éprouvée. Une affaire de magouille éclate et ça permet, en attirant l'attention, de faire oublier l'affaire précédente et bien sûr, de continuer à magouiller ailleurs. Cette semaine, grâce à des enregistrements des conversations de Sarkozy par la justice cette fois-ci, on a appris l'existence de Gilbert Azibert. Faut toujours continuer à nous faire chier, Sarkozy, au vu du nombre de gens qui écoutent ses conversations privées. Il a dû passer devant Radio Canyon au niveau du nombre d'auditeurs. On a donc appris que Sarkozy et son avocat étaient régulièrement en contact avec Gilbert Azibert, au magistrat, qui les aurait renseignés sur les avancées de la justice concernant l'affaire du distributeur automatique de l'UMP, autrement appelé Ingrid Bettencourt. En échange de ces informations, celui-ci espérait obtenir un poste à Monaco. Et ça, il l'a toujours dit, c'est parce qu'il aime le climat méridional. Rien à voir donc avec la politique fiscale de la principauté. La semaine dernière, j'ai peut-être été un peu maladroit à comparer tous ces milieux politico-financiaro-judiciaires à la mafia. Mais cette fois-ci, quand je vais vous parler de la vie de Gilbert Azibert, n'y voyez aucun mauvais esprit. Il s'agit d'un homme que la vie n'a pas épargné et qui a dû faire des choix difficiles. Il commence sa carrière dans la magistrature à Marseille.
Sa ville natale. Oh, commencez pas avec vos clichés de merde. Hein. Moi aussi, je viens de Marseille. Hein. Et dites pas que je suis de la mafia. Hein. Parce que sur le chemin de l'école, vos enfants, un accident est vite arrivé. Bon, alors qu'il est en poste à Marseille, il est en conflit ouvert avec le très médiatique juge Pierre Michel. Mais pas de chance, alors que leur dispute était sûrement très constructive, celui-ci est abattu par des truands liés au trafic d'héroïne en octobre 81. Le juge Pierre Michel n'étant plus là, plus rien ne freine l'ascension de Gilbert Azibert. Il grimpe très vite les échelons et se fait toujours offrir ses postes par la droite, notamment Juppé. Il devient ainsi, en 99, président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Et là, il fait libérer tellement de personnalités du grand banditisme pour vice de procédure qu'il est surnommé « Annulator ». C'est vrai. Et maintenant, bing ! À un an de la retraite, il est perquisitionné et bientôt accusé d'avoir renseigné et aidé Nicolas Sarkozy dans son histoire avec Mamie Zinzin. Ah, la poisse du dernier coup ! Et c'est ainsi que ce lundi, il est hospitalisé d'urgence après une chute dans son escalier. Tentative de suicide d'après Le Point, accident bête d'après La Famille. Ça me paraît crédible, hein ? C'est vrai que l'expérience nous a montré que les sols chez les juges sont aussi glissants que dans les commissariats. En tout cas, moi, aujourd'hui, je serais Patrick Buisson, j'aurais peur de me faire tailler la haie. Par contre, il y en a un à qui ça a redonné la pêche, ces histoires d'écoute téléphonique. C'est Jean-François, dit Al Copé. Très sympa avec son ancien mentor Sarkozy, et histoire de calmer le jeu, il déclare avec fracas « Trop, c'est trop. Cette affaire est en train de revêtir une exceptionnelle gravité. » Alors là-dessus, c'est pas mal. Ça fait oublier ses propres affaires de détournement de fonds de l'UMP, et même si on y repense, ça fait moins grave. Malheureusement, il sait pas s'arrêter et il finit toujours par merder, puisqu'il continue en disant « François Hollande semble se comporter en digne héritier de François Mitterrand au lieu de garantir les libertés. » Moi, je suis pas spécialiste en communication, mais comparer son adversaire, notre président, qui a autant de charisme qu'une huître, à François Mitterrand, à mon avis, c'est pas terrible. Mais sa conclusion est un modèle du genre, surtout si vous pensiez que les élections, c'était que pour les cons. Après avoir fait tout un discours sur les affaires qui empoisonnent l'UMP, il termine en disant j'appelle donc plus que jamais les Français à ne pas être dupes et à sanctionner François Hollande en votant dès le premier tour pour les candidats UMP au municipal. Bon, mais dans toute cette noirceur, j'ai trouvé une petite note positive cette semaine. Il n'y a pas qu'en Égypte, en France aussi, les postiers se bougent. Spécial dédicace. Ce lundi, au moins une douzaine de facteurs parisiens ont refusé, malgré la pression de la direction, de distribuer des tracts du FN qui n'étaient pas sous enveloppe mais mis avec la pub. Bravo camarades. On peut noter dans cette histoire la stratégie de la CGT qui soutient ces facteurs. Toujours aussi révolutionnaire et fervente des attaques frontales, celle-ci a déclaré pour justifier cette action « Eh oui, en déambulant avec des tracts du FN sous le bras, les facteurs risquent d'être interpellés au cours de leur tournée. Il y a un danger pour leur intégrité physique et morale. » Merci la CGT. Nous, on sait que c'est pas pour ça qu'ils l'ont fait. Merci à eux. Allez, je termine avec la conne bendite de la semaine. Il y a eu hier un vote au Parlement européen pour un rapport qui demandait aux États de l'Union européenne de garantir le respect du principe fondamental de l'égalité de rémunération à travail égal entre les femmes et les hommes. La gauche a voté pour, la droite a voté contre, et le rapport a été rejeté avec 298 voix contre et 289 voix pour. Qu'est-ce qu'il a fait, le rouquin prétentieux donneur de leçons ? Eh bien lui, le justicier 68ard, lui, avec son sous-fifre José Bové et plusieurs députés écologistes, il s'est abstenu. Encore bravo, ah, monsieur oui. Bendit. On imagine très bien ce qu'il aurait pu dire en privé à José Bové avec son franc-parler habituel. C'est pas parce qu'on est le lendemain de la journée des femmes qu'on va se faire enculer. Merry wives, the winds are not king here. I don't know about Timon, I know all in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Alors, un petit agenda pour terminer. Samedi, à Lyon, une manifestation pour protester contre les lois islamophobes. Et c'est en réaction à la loi de 2004 sur le port du voile dans l'espace public. Donc, manifestation, ça se passe samedi 15 mars, place Bellecour, à 14h, pour dire stop à la loi de 2004. Call out, do it as you like. You want to do about nothing, all you do is bite. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like... Un petit mot de la fin.
Eh ben, le petit mot de la fin, ce sera soyez nombreux demain pour défendre vos droits. Parce que la précarité et le chômage, ça impacte chacun d'entre nous. Et personne n'est à l'abri. Donc, soyez nombreux à 12h, métro Charpennes, place Charles Hernu. Et Charles Hernu était le ministre de